Non, c'est pas tout à fait exact. Je pense que c'est important que tout le monde se souvienne d'une chose principale quand on utilise les services d'outils tiers, c'est qu'en général, le responsable, c'est celui qui utilise l'outil. C'est-à-dire que si tu utilises Google Ads, le premier responsable, c'est toi. Alors, tu es responsable de ce qui se passe sur ton site, il y a des cookies qui sont déposés sans consentement, c'est ta responsabilité. Il est difficile de s'appuyer sur la responsabilité d'un tiers dans ce cas-là. Il y a une jurisprudence qui est déjà établie, il y a au minimum une co-responsabilité, une responsabilité conjointe, et de toute façon une responsabilité de l'éditeur du site. Ça, c'est...
Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. On va aborder le sujet le plus chaud du moment e-commerce, à savoir la data, le consent mode, le RGPD et aussi tout ce qui est server-side. Clairement, on a un épisode dans lequel vous allez apprendre et comprendre surtout tout ce qu'il y a à savoir sur ces sujets-là. Je pense qu'on a, pour moi, c'est vraiment un épisode pilier qu'on vient d'enregistrer. Ouais, je fais cette intro après avoir enregistré l'épisode. Donc franchement, écoutez-le jusqu'au bout. D'ailleurs, on va parler du consent mode V2 qui est un sujet hyper important vers la fin de l'épisode. Donc restez avec nous jusqu'au bout. Ça va être un peu long, mais très très complet. Et bonne écoute. Salut. Benoît, ravi de t'accueillir sur e-commerçon. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, je pense, qui fait débat de fou dans la communauté e-commerce en général. Le consentement, le RGPD, le consent mode V2 de Google, tous les sujets liés finalement un peu à la gestion de sa donnée client, etc. C'est un sujet méga, méga important. En plus, on est au cœur du sujet aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast.
Bah écoute, merci. C'est très gentil.
Bah ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te laisser te présenter sur, pour le début de cet épisode?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis Benoît Auberlé, je suis le président et fondateur de SurData. SurData est une entreprise spécialisée dans la gestion de la donnée, notamment la donnée publicitaire pour le compte de ses clients, et désormais depuis 2018 dans la conformité réglementaire, ce qui nous a conduit à développer certaines activités, notamment dans le consent management, et à collaborer avec des groupes plus ou moins gros, dont plus récemment Google, pour l'implémentation du consent mode V2.
Ok. Donc en gros, ton travail, moi de ce que j'avais vu un petit peu sur la boîte, c'est vous avez une activité donc de CMP, donc de gestion de cookies, on en parlera un peu plus tard ensemble. Vous avez une activité aussi tracking qui est via le server-side, etc. Et vous avez aussi un peu une activité de gestion de données, d'audience, alors que je maîtrise peut-être un peu moins. Est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi un peu de cette activité, en fait qui est même l'activité de base de SurData, non?
Oui, tout à fait. Le métier historique, hein, quand on a créé la structure il y a maintenant 13 ans, le métier historique de SurData était d'agréger des audiences dites comportementales, donc de la détection d'intention sur des sites tiers, pour les fournir aux annonceurs qui vont s'en servir pour faire du ciblage publicitaire. Ou dit autrement, on va essayer de détecter dans la navigation des utilisateurs qui sont ceux qui veulent acheter une voiture, un billet d'avion, qui sont ceux qui sont intéressés par la mode, par exemple, pour après les fournir à des annonceurs qui peuvent être des marchands en général ou des fournisseurs de services, pour qu'ils puissent faire des campagnes de prospection. Comment ça marche? Ça marche comme le reciblage, sauf qu'on cible une donnée tierce, et donc ça devient de la prospection.
Ok. Ouais. En fait, ce que j'aime bien dans l'approche, c'est que comparativement, tu vois, avec d'autres outils qui ont fait derrière de la CMP, enfin du cookie management, etc. Et vous, à la base, vous faites du marketing.
Oui, et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à développer la CMP, pour être tout à fait honnête. À l'époque, 2018, on parle du RGPD, on a voulu mettre le réseau sur lequel on collectait de la donnée en conformité. On parle d'un réseau de 4000 sites à l'époque, et on a donc contacté tout le monde pour leur dire bah voilà, désormais il faut recueillir un consentement. On pourra rediscuter, j'imagine, de ce qu'est le consentement. Pour que ce consentement soit valide, il faut respecter un certain nombre de règles. Par exemple, le fait que dans le deuxième écran des outils utilisés, les cases ne soient pas pré-cochées, c'est un exemple. Et on a audité les partenaires qu'on avait. Grosso modo, c'est facile ou c'est rentable d'auditer les 100 premiers partenaires d'un réseau, mais grosso modo, les 3900 restants, c'est pas la peine, c'est chronophage et c'est pas rentable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une consent management plateforme qu'on a proposé aux éditeurs à qui on achetait la donnée, la fameuse donnée comportementale qu'on agrège et qu'on propose à nos annonceurs. On a proposé donc cet outil gratuitement pour asseoir la conformité des données qu'on collectait et des cookies qu'on utilisait. Par extension, l'outil s'est premiumisé avec le temps et on le propose désormais sous deux variantes. Une première variante premium payant, donc le client paye pour l'outil qu'il utilise. Et une seconde variante, c'est le même outil premium où il décide de compenser la facture qu'il reçoit pour l'outil par la collecte de données. Ah, donc on continue notre métier d'origine, c'est-à-dire collecteur, raffineur de données, lorsque le client qui utilise notre CMP souhaite, plutôt que de payer sa facture, compenser en nous laissant collecter la donnée.
Et je trouve que tu vois, la logique, elle est géniale. Parce que, en fait, quand je dis génial, c'est... Moi, il y a un truc que je pousse beaucoup auprès de mes partenaires et un peu les gens que je rencontre, c'est les alignements d'intérêts. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, créer des outils de gestion de cookies, sans que tu saches ce que c'est de gérer des budgets marketing, etc. Mais en fait, tu as un désalignement d'intérêts. En fait, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, tu crées un truc pour un truc que tu ne fais pas. Et nous, on avait le problème, tu vois, quand on a créé la boîte, c'est que on est une agence Google Ads. On gère du coup des budgets Google Ads pour des sites e-commerce. Mais tu fais pas de e-commerce. Comment tu es crédible, tu vois? Du coup, on a maintenant investi dans un site e-commerce et on a une activité e-commerce à côté. Et je trouve le lien, il est assez proche et c'est hyper intéressant. Ce que je te propose dans l'épisode, c'est qu'on puisse un peu créer une sorte de guide, tu vois, book, que les gens, ils vont écouter cet épisode, ils vont grosso modo comprendre les 90% des choses qu'ils doivent comprendre avec les subtilités qui vont bien. C'est-à-dire que même des gens très avancés, et pour nos auditeurs un peu avancés, vous puissiez ressortir avec des insights auxquels vous pensiez même pas. Et j'aimerais déjà commencer avec la base. On entend beaucoup parler de RGPD. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un de différent, on a une définition différente de ce que c'est. C'est quoi concrètement aujourd'hui le RGPD ?
J'imagine que la question est pour les commerçants.
Ouais, c'est ça. L'idée, ça va être vraiment qu'on focalise peut-être nos échanges autour des e-commerce. Donc quand je dis des e-commerce, ça va être principalement des gens qui ont un site e-commerce et qui dépensent des budgets publicitaires, que ce soit sur Google, sur Meta, sur peu importe les plateformes, et qui vont avoir ces enjeux-là. Du coup, ils vont avoir des clients qui arrivent sur leur site, qui font des commandes, des prospects qui vont arriver sur leur site. Ils doivent gérer du coup leur consentement. Alors, tu vas peut-être me reprendre sur ça, mais ils doivent se mettre en conformité avec la loi. Et du coup, on leur parle de tous ces sujets. Ils ont des sons de cloche qui vont dans tous les sens. Et pour certains, en fait, il leur manque quelques bases. Ce serait cool qu'on pose bien les bases. Et du coup, je pense qu'un bon moyen de débuter sur les bases, c'est la partie RGPD.
Alors, les e-commerçants, comme d'ailleurs beaucoup d'autres sites internet, traitent ce qu'on appelle des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? C'est une donnée qui peut être rattachée à un individu. Il n'y a pas besoin que l'individu soit nominativement identifié pour que ce soit une donnée personnelle. Il y a simplement besoin que des parcours de surf, par exemple, soient individualisés, qu'on puisse rattacher le fait qu'un même individu, sans savoir qui c'est, a pu consulter 3 pages, par exemple. Ça suffit à déterminer le caractère personnel de la donnée. Quand on traite une donnée à caractère personnel, aujourd'hui, pour que ce soit conforme en Europe, il faut respecter le RGPD. Ça veut dire qu'il faut déjà commencer par, pour légitimer le traitement, disposer d'une base légale de traitement. Des bases légales de traitement, il y en a 6. Grosso modo, dans nos métiers digitaux, il y en a 3 principales. Le contrat, donc je traite une donnée personnelle parce qu'elle est utile à une phase pré-contractuelle ou contractuelle. Dans le cadre du commerçant, par exemple, les données qui vont être communiquées pour livrer un produit vont en général être traitées sur la base d'un contrat. En général, il n'y a pas de règle universelle. Il y a le consentement, que tout le monde connaît, donc je propose à l'utilisateur de traiter ses données pour une fonction ou une finalité particulière et celui-ci décide de me donner ou non son consentement. Et la 3e base légale généralement utilisée, c'est l'intérêt légitime. J'explique à l'utilisateur ce que je fais ou ce que mes partenaires font et à moins qu'il ne s'oppose au traitement, je le fais.
Ok, donc en gros, ça c'est un peu ce que va dire la loi sur ce que tu as le droit de faire et dans quel contexte tu as le droit de faire sur la gestion des données personnelles de tes utilisateurs, si je comprends bien.
Alors, peut-être une précision, ça n'est pas illégal de traiter de la donnée personnelle. Pour que ce soit légal, pour que ce soit légitime, il faut respecter le RGPD. Hein. Donc, j'insiste, c'est très important, on nous dit souvent que les traitements de données personnelles ne sont pas légaux, etc. Ça n'est pas le cas. C'est tout à fait conforme de traiter une donnée personnelle, quelle que soit la finalité. Dès lors qu'on est capable de démontrer sa conformité, comment est-ce qu'on démontre la conformité ? Mais déjà en disposant d'une base légale pour le traitement, en remplissant un registre, etc. Il y a pas mal d'obligations qui viennent avec le RGPD, mais c'est ce qui permet justement de définir le caractère légal ou non légal.
Okay. Est-ce qu'on peut donner une définition à intérêt légitime ? Parce que je trouve que c'est une phrase, on la voit partout, et alors au début, moi quand je l'ai vu, ça veut rien dire. Tu vois. Enfin, je veux dire en français, intérêt légitime, ça veut rien dire. Et j'ai l'impression que c'est genre un espèce de fourre-tout dans lequel on peut dire, moi c'est mon intérêt, donc c'est légitime. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que toi, tu aurais une définition très simple pour qu'on comprenne finalement c'est quoi le mot intérêt légitime, ça veut dire quoi ?
C'est une excellente question. Et encore une fois, je vais vulgariser. Premièrement, ça implique un intérêt. C'est-à-dire que le traitement que je m'apprête à faire doit revêtir un intérêt pour moi, hein, pour moi en tant que responsable de traitement. Je ne suis pas en train de suivre l'intérêt de quelqu'un d'autre, donc j'ai mon intérêt et il faut que je le démontre. Peut-être est-ce un intérêt commercial, peut-être est-ce autre chose. Ensuite, il faut qu'il soit légitime. Ça peut être dans mon intérêt et pour autant ne pas être légitime. Donc je vais devoir aussi démontrer la légitimité de cet intérêt. Et surtout, la condition vraiment essentielle, c'est que je vais devoir démontrer que mon intérêt légitime n'outrepasse pas les droits fondamentaux de la personne. Hein, la personne elle a un droit aujourd'hui à la protection de la vie privée, et quand je vais évaluer mon intérêt et son caractère légitime, je vais devoir évaluer si, oui ou non, une balance entre les intérêts légitimes que je défends et ceux de la personne est bien respectée. Voilà. Si cette balance n'est pas respectée, si mon traitement produit des effets juridiques importants, par exemple, pour la personne, eh bien, mon intérêt légitime ne sera pas valable. Voilà. Et évidemment, dans tous les cas, à moins d'avoir une solide démonstration, il faut que je garantisse à la personne qu'elle puisse s'opposer à ce traitement.
Ok. Ouais, donc, tu as une notion dans l'intérêt légitime qui est de dire, bon, finalement, il y a pas mal de choses qui peuvent y rentrer pour peu que tu le prouves que ça peut y rentrer. D'une certaine façon.
C'est ça, c'est-à-dire que...
Ça ne contrecarre pas les deux autres points.
Je pense que tu mets le doigt sur un point très important. Un intérêt légitime ne se présume pas, un intérêt légitime se démontre. C'est-à-dire que si tu fais un traitement et que tu t'appuies sur ton intérêt légitime pour le faire, il faut démontrer pourquoi tu as un intérêt et pourquoi il est légitime. Je donne un exemple. Hein. Souvent, on me parle, par exemple, de la possibilité qu'ont des commerçants d'envoyer un email à un individu qui a déjà commandé un produit. Eh bien, si dans cet email de prospection, promotion est faite d'un produit connexe à celui qui a déjà été acheté, alors il est possible de l'envoyer, sous certaines conditions, sans un consentement préalable. Ce traitement implique un traitement de données caractère personnel, notamment l'adresse email de la personne, ne serait-ce que pour lui envoyer le mail. Il serait peu logique de traiter cette donnée à caractère personnel sur la base d'un consentement pour un traitement qui, originellement, ne nécessite pas nécessairement un consentement. Donc, je vais m'appuyer en tant que commerçant, en général, sur un intérêt légitime que je vais démontrer pour le faire. Et l'utilisateur pourra s'opposer à ce traitement, en général dans l'email, grâce à un lien en bas de l'email de désinscription.
Ok. C'est intéressant parce que, du coup, là, on commence à arriver sur la notion de consentement. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire justement consentement ? Qu'est-ce qui se cache ? Du coup, c'est le deuxième point dont tu parlais. Et justement, quand on préparait ce podcast, tu m'as parlé de trois modes de consentement qui existent, ou en tout cas trois catégories. Je ne sais pas exactement quels sont les termes précis. J'en connaissais un. Donc, je pense que nos auditeurs aussi vont apprendre des choses sur ça. C'est quoi aujourd'hui du coup le consentement, Benoît ?
Alors, pour être précis, il y a bien un seul consentement. La définition du consentement aujourd'hui, elle est donnée par le RGPD. Hein, tu la connais, et je pense que tous les auditeurs la connaissent. Et je pense que ce qui est important, et c'est ça qu'on a retenu dans la préparation, c'est que cette définition du consentement, elle a évolué dans le temps. Jusque 2018, on avait une définition du consentement dite implicite. Par exemple, la poursuite de navigation voulait dire consentement dans certains cas. Il suffisait d'expliquer à l'utilisateur que s'il poursuivait sa navigation sur le site, alors il donnait son consentement.
Les fameuses bannières, si vous continuez ici, vous acceptez, et tu pouvais cliquer sur fermer, et globalement, tu avais fait ton consentement. Quoi.
Tout à fait. L'inactivité pouvait vouloir dire consentement. Aujourd'hui, on a une définition nouvelle du consentement qui est apportée par le RGPD et qui s'applique à l'ensemble des traitements qui s'appuient sur le consentement. Notamment, ce consentement doit être explicite. Donc on ne déduit plus le consentement aujourd'hui d'une inactivité ou d'une poursuite de surf, par exemple. On considère qu'il y a un consentement si l'utilisateur a fait un geste explicite pour donner son consentement. Par exemple, il a tout accepté dans une fenêtre de consentement. On pourra revenir après sur les caractères de validité du consentement, parce qu'il ne faut pas non plus, faut pas seulement qu'il clique sur un oui. Il y a beaucoup de choses à respecter aujourd'hui pour que ce oui soit valide.
On peut peut-être rentrer vite fait sur ça, justement, parce que ça fait partie du consentement, les caractéristiques qu'il y a dans le consentement. Parce que tu disais, il y a le fait qu'il soit... intentionnel, j'ai pas utilisé le bon mot, mais
explicite.
Mais il y a d'autres caractéristiques qui disent aujourd'hui ce consentement il est valide. Et du coup, il y avait un truc comme équivoque ou je sais plus exactement ce que c'était, mais il y a 3-4 paramètres.
Tout à fait, univoque.
J'avais la fin du mot.
il pouvait être avant équivoque, on pouvait déduire de l'inactivité un consentement. Aujourd'hui, il faut que ce soit univoque. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit certain que le consentement a été donné. Comment est-ce qu'on peut être certain? Eh bien, c'est une action qui ne fait que manifester un consentement. On ne peut pas aujourd'hui collecter un consentement avec autre chose qu'un consentement. On ne peut pas, par exemple, collecter un consentement dans une acceptation de conditions générales. Il faut bien décorréler les deux. Faute de quoi, le consentement risque d'être considéré comme invalide. On a un cadre théorique qui définit le consentement, et puis on a un cadre pratique qui arrive avec la jurisprudence. Et je pense qu'on peut se focaliser aujourd'hui sur ce cadre jurisprudentiel. On sait aujourd'hui que, par exemple, si lorsqu'on l'utilisateur décide de faire un choix granulaire, parce que c'est obligatoire, même si on propose un choix groupé sur un gros bouton « oui », on doit proposer un choix granulaire. Donc lorsque l'utilisateur va, en général, dans un deuxième écran et qu'il voit des cases à cocher, il faut que ce soit des cases à cocher et non pas des cases à décocher. Si les cases sont pré-cochées, le consentement, alors même que l'utilisateur aurait pu cliquer sur « oui » sur la première page, ne sera pas valide. Si aujourd'hui en France, il n'y a pas une mécanique de refus qui est proposée à côté de la mécanique d'acceptation dans le premier écran, l'utilisateur aura beau dire « oui », le consentement sera plus valide. C'est important de garder en tête qu'on ne doit pas démontrer un consentement aujourd'hui pour asseoir la légitimité ou la licéité d'un traitement. On doit démontrer un consentement valable.
Ok, et il faut vraiment que ça suive toutes ces règles qui sont précises, qui sont dictées du coup en partie par la jurisprudence, en partie par le cadre légal du RGPD. Moi, tu voulais rajouter
tout à fait. Hein. Et donc, pour rebondir sur ce que tu expliquais tout à l'heure, quand tu as dit il y a trois types de consentement, je pense que tu faisais référence au consentement qui concerne différents traitements ou différentes activités et différentes réglementations. Pour aller dans ton sens, on a effectivement, quand on est un marchand en général, on parlait des newsletters tout à l'heure ou de la capacité à faire la promotion de produits connexes éventuellement sur la base d'un intérêt légitime. Eh bien, si on décide de faire la promotion de produits non connexes, alors qu'est-ce que c'est que cette définition de connexe? C'est si je suis un site spécialisé qui parle de vélo, par exemple, qu'un utilisateur vient et achète un vélo, je vais pouvoir éventuellement lui faire la promotion sans son consentement et jusqu'à ce qu'il s'oppose. De produits du type casque ou pompe de vélo, parce que c'est proche, connexe de ce qu'il a déjà acheté. Si par contre je suis un site généraliste qui vend aussi bien des télés que des vélos, je ne vais pas pouvoir envoyer une publicité pour une télé à cet utilisateur alors qu'il a acheté un vélo. C'est trop éloigné de son intérêt d'origine. Et donc quand je vais faire ma balance entre mon intérêt légitime à faire une communication pour pouvoir vendre des produits et donc faire mon métier de commerçant, et que je vais faire la balance avec l'intérêt ou les droits fondamentaux de la personne, je vais me rendre compte que c'est trop éloigné et je ne peux pas faire cette communication sur la base de mon intérêt légitime. Je vais donc chercher à recueillir le consentement de la personne. On parle là d'un consentement code des postes et des télécommunications. C'est un consentement pour la prospection directe, prospection commerciale. Il y a d'ailleurs un autre type de consentement qui est ce qu'on appelle en général l'opt-in partenaire, qui est le consentement pour que des partenaires puissent faire de la prospection commerciale auprès de mes clients. Ça, c'est vraiment un premier type de consentement. Un second type de consentement qu'on croise tous les jours, c'est le consentement pour les cookies. On a en Europe une directive e-privacy depuis 2002 d'ailleurs, qui a été transposé dans des réglementations nationales, en France dans la loi Informatique et Liberté, l'article 82. C'est cet article 82 qui nous oblige à recueillir en général un consentement pour les cookies, à moins d'être capable de démontrer qu'il y a une exemption qui s'applique.
Et ça, on est d'accord, c'est pour l'accès à la machine, en fait, ou au terminal.
C'est ça, exactement. Ce qu'on appelle consentement cookie, c'est le consentement d'utilisateur à une opération de lecture ou d'écriture dans son équipement terminal. C'est très important de comprendre que ça n'est pas lié au RGPD. Ça n'est pas le RGPD qui implique un consentement pour l'accès à ce terminal. C'est la directive la directive e-privacy transposée dans la loi Informatique et Liberté qui nous l'impose. Ça peut être d'ailleurs dans ce cookie des données personnelles comme tout à fait des données non personnelles. Il n'y a pas de lien avec le RGPD autre que cette nouvelle définition du consentement. Auparavant, on pouvait avoir un consentement implicite pour déposer un cookie dans un terminal. Maintenant, on a besoin d'un consentement explicite pour déposer le cookie. Et puis le troisième consentement, celui qui est relatif au traitement de la donnée elle-même. Et donc souvent, ce qui se passe, c'est que dans un même outil, dans une même consent management platform, on va collecter le consentement pour les cookies et le consentement pour traiter les données qui font suite à l'utilisation de ces cookies. Mais on a bien deux consentements. Un consentement cookie, un consentement traitement de la donnée.
Ok. En fait, en gros, si j'essaie de résumer un peu ce que tu m'as dit en très rapide, il y a trois éléments différents dans le consentement. Il y a l'article 82 qui dit, d'Informatique et Liberté, qui dit « Vous devez avoir un consentement pour pouvoir écrire des choses sur la machine ou le terminal de l'utilisateur. Peu importe ce que vous écrivez. » Vous avez le RGPD qui vous permet qui donne un cadre légal à l'utilisation des personnels.
Des traitements de données qui font suite à l'utilisation des cookies.
Qui sont pas dans les cookies. Enfin, qui peuvent être dans les cookies, mais l'un n'est pas lié à l'autre, mais l'un est lié à l'autre. C'est-à-dire que si tu peux pas mettre de cookies sur la machine, théoriquement, tu pourras pas lire les données personnelles qui sont dans les cookies non plus, l'un ou l'autre.
Hein. Oui, mais l'utilisateur aura pu donner au commerçant, par exemple, son adresse email.
Okay.
Dans le cadre de son inscription pour se faire livrer un produit.
Okay.
L'adresse email pourrait être traitée sur la base d'un consentement pour faire de la prospection commerciale. Okay. Il n'y aurait pas de cookie, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est vraiment deux choses qui se cumulent.
Ok, donc c'est vraiment deux choses qui se cumulent. Donc, accès à la machine, traitement des données personnelles. Et après, le troisième aspect, c'est la prospection, d'une certaine façon. Et là où je trouve que c'est hyper intéressant, et je pense que très peu de gens le savent, c'est que vous pouvez envoyer des emails. Enfin, je pense, j'ai l'exemple du site Multimark, il est trop bien. Si on prend par exemple Decathlon, qui est l'exemple parfait, un gars qui a acheté une raquette de tennis chez Decathlon, on peut lui envoyer un mail pour lui vendre des balles sans qu'il ait opt-in, enfin entre guillemets sans son consentement, parce que c'est dans notre intérêt légitime. Par contre, on peut pas lui envoyer un mail pour lui vendre des équipements de randonnée parce que c'est pas des articles connexes aux raquettes qu'il a acheté, et donc là il nous faudra son consentement pour pouvoir le faire. J'ai bien résumé ?
C'est un résumé, un peu rapide et théorique, mais en effet, je pense qu'on peut ou rephraser le résumé de cette façon. Si l'utilisateur est surpris quand il reçoit la prospection commerciale, alors l'intérêt légitime n'est pas respecté. Ah, donc s'il reçoit effectivement une communication relative à la raquette de tennis, donc à des balles par exemple, il ne sera pas surpris. S'il reçoit une communication relative à une télé de la part des Decathlon, il sera probablement surpris.
Surtout si Decathlon vend des télés.
C'est ça.
Ce sera encore plus drôle. Mais ok, d'accord. Donc, je pense qu'on a bien compris c'est quoi le RGPD, c'est quoi les consentements, ça veut dire quoi ce qui se cache derrière, et j'espère que nos auditeurs arrivent à suivre. Mettez-nous dans les commentaires si vous avez des questions sur ces sujets, on essaiera d'y répondre. En tout cas, je demanderai à Benoît des réponses quand je ne serai pas capable de vous répondre. Moi, la question que je me pose là-dedans, tu vois, avec le e-commerce à côté, c'est en vrai, c'est un nuage. Et je me dis, comment je gère tout ça, tu vois ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de justement gérer un peu tes différents consentements ? Je sais qu'on parle beaucoup des CMP, donc qui sont un peu les cookie management platforms, donc qui permettent justement, ou peut-être je me trompe, un consent management platform plutôt d'ailleurs, qui te permettent de gérer justement les différents niveaux de consentement et de te mettre en réglementation, aligné avec la réglementation et les réglementations. Comment ça se passe un peu, peut-être, parce que du coup, je sais que vous avez une CMP de votre côté. Comment ça fonctionne globalement?
Alors, on commence même à dire maintenant Choice Management Platform.
C'est bien, le C, il peut y être utile pour plein de trucs.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, Choice pour différentes raisons, hein, le choix, parce que, eh bien, on ne gère pas que le consentement. On gère aussi le refus de consentir. On peut gérer d'autres bases légales, notamment l'intérêt légitime et son pendant qui est le droit à s'opposer au traitement. Hein, donc, l'utilisateur doit pouvoir s'opposer et que le traitement s'arrête. Donc, c'est tout ça qu'on peut gérer dans une consent ou une choice management platform. Mais je pense que c'est surtout la difficulté de gérer les différents types de consentement dont tu as parlé en un seul endroit qui va être géré. On va avoir la possibilité, si c'est correctement expliqué à l'utilisateur, de gérer plusieurs consentements en un dans une première fenêtre de CMP. Plusieurs consentements en un, parce que ça peut être par exemple un consentement pour les cookies, un consentement pour les traitements de données publicitaires, un consentement pour les traitements de données à des fins de mesure d'audience, à des fins de personnalisation. Donc on peut avoir un consentement pour différentes finalités et des cookies qui vont être utilisés pour ces différentes finalités. On peut aussi avoir éventuellement un consentement pour le démarchage par prospection commerciale, si c'est bien fait, dans cette CMP. La condition sine qua non de validité de ce consentement, c'est que, eh bien, tout groupé qu'il soit, et avec une mécanique de refus possible dans le premier écran, il est nécessaire de donner un choix possible granulairement dans le second écran. Je peux grouper mes différents consentements sur le bouton « Tout accepter », mais je dois absolument proposer à l'utilisateur de consentir à une finalité, mais pas aux autres, par exemple.
Ok, donc tu as vraiment cette notion de dire ta CMP, c'est le lieu central sur lequel tu vas gérer tout ce qui est lié au consentement et limite sur les trois points dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a, tu vas théoriquement pouvoir gérer les trois points du consentement directement depuis cet outil. Salut, c'est Pierre-Baptiste. J'interromps cette vidéo pour te parler de quelque chose qui va te plaire. Tu sais, mon métier, c'est de créer les meilleures stratégies sur Google Ads et aussi de faire grossir mon e-commerce en parallèle de ça. Et pour faire ça, je me renseigne énormément, je fais énormément de tests. Et du coup, déjà depuis quelques années maintenant, je publie beaucoup de contenu sur LinkedIn, sur tous les réseaux, etc. Et il y a un certain type de contenu qui n'a pas vraiment sa place sur tous ces réseaux-là. C'est des contenus ultra poussés qui te permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai créé une newsletter dans laquelle je partage chaque semaine des articles très poussés sur les meilleures tendances Google Ads, sur les hacks pour aller chercher plus de renta, sur les meilleures techniques pour aller prendre de la croissance, que ce soit sur Google Ads. Je te partage aussi tous les tests que je mets en place sur mon e-commerce, des petits secrets dont personne ne parle pour optimiser ta logistique et un peu tous les aspects de ton business. Les retours sont unanimes. Je sais que c'est devenu un rendez-vous hebdo pour plusieurs milliers d'abonnés maintenant. Donc, ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses nous rejoindre. Le lien est dans la description du podcast, sous cette vidéo, sous cet épisode audio. Je te laisse t'abonner et on reprend la vidéo. Peut-être juste pour que les gens ils se projettent sur ça, que nos auditeurs se projettent une CMP sur un site e-commerce ou sur un site internet en général, souvent ça se matérialise par cette pop-up qui arrive et ce qui vous propose d'accepter, de refuser, continuer sans accepter, de paramétrer vos choix, juste pour que les gens puissent se projeter sur qu'est-ce que c'est la CMP concrètement pour leur vision à eux. Dans cette CMP, comme une des questions que je me pose, alors c'est peut-être très technique, mais tu auras peut-être un bout de réponse pour moi, c'est si je dis que je peux, par exemple, ils cliquent sur ma CMP Share Data pour tout accepter, et notamment ils acceptent le contact par email dans le cadre de prospection hors de l'intérêt légitime. Je veux leur vendre la télé de Decathlon, en l'occurrence. Comment je relie ça avec mon outil d'emailing, par exemple, qui, lui, en fait, il n'est pas vraiment intégré directement dans ma CMP, il va falloir que je le gère à côté. Alors, c'est peut-être très technique comme question, et tu me dis ce que j'imagine qu'on peut rentrer vite dans beaucoup de technicité. Mais est-ce que l'idée, finalement, c'est vraiment d'avoir cette CMP qui est interconnectée avec tous tes outils?
Alors, la question est clairement technique. Comment est-ce que je relie un choix fait dans une CMP à un CRM, finalement? Et la réponse est tout aussi technique. Effectivement, je vais avoir besoin d'identifiants. Notamment, par exemple, je vais avoir besoin que l'utilisateur sur mon site me donne son adresse email, qui va en général servir de jointure entre le monde digital et le monde non digital qui est mon CRM. Donc je vais avoir besoin pour ça en général, une fois qu'il m'a donné son adresse email, de pouvoir mémoriser le fait qu'il m'ait donné son adresse email. Donc je vais avoir besoin d'un cookie dans lequel je vais mettre cette adresse email, en général pas en clair, hein, il vaut mieux la hacher. Donc, pour ceux qui nous regardent, il y a des algorithmes comme le SHA-256 qui servent à ça. Et du coup, quand l'utilisateur va naviguer, je vais pouvoir l'identifier grâce à cette adresse email hachée. Et je vais pouvoir créer un pont entre mon monde digital et mon monde non digital. Si l'utilisateur me donne son consentement, puisque il est nécessaire que l'utilisateur m'ait donné son consentement pour stocker cet identifiant dans un cookie. Les cas d'application d'une règle d'exemption sont suffisamment rares pour que, en général, un email stocké dans un cookie soit strictement soumis à un consentement préalable. D'accord ? Donc, quand l'utilisateur va interagir avec la CMP la première fois, on ne connaîtra pas encore son email. Hein, donc, ce qui est important, c'est que le message qui lui soit donné, parce que c'est la première fonctionnalité de la CMP, c'est de délivrer une information, le message qui lui soit donné soit « Bonjour, on voudrait faire ces traitements-là, nos partenaires voudraient faire ces traitements-là. » Par exemple, on pourrait dire « On aimerait, si vous nous donnez votre adresse email sur ce site, pouvoir lier ça avec notre CRM à des fins de remontée d'informations de consentement qui nous permettent éventuellement de vous démarcher. » Tout ça doit être expliqué dans la CMP. L'utilisateur peut dire oui de manière groupée, peut dire non de manière groupée, et donc là on va respecter son choix, et il peut dire oui ou non de manière dégroupée dans un écran éventuellement ultérieur. D'accord ? Donc s'il dit oui pour les opérations qui me permettent de stocker l'adresse email, de la remonter vers mon CRM, pour après poursuivre une finalité de prospection commerciale, je peux le faire. S'il me dit non, je ne peux pas le faire. Okay. Ce qui est important, c'est d'expliquer de manière claire, compréhensible, et que l'utilisateur fasse un choix.
Ok. Ouais, effectivement, tu as quand même pas mal d'enjeux à la fois légaux pour que l'écriture de tes CMB soit les plus carrés possibles. Et au-delà de ça, tu as aussi l'enjeu de technique, bien interconnecter tout ça pour que tout soit, comme tu le disais, crypté comme il faut, que les connexions soient faites, qu'on explique bien. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux derrière. Donc, désolé, c'est une question un peu technique, mais je pense qu'elle est importante. Il y a quand même un point, du coup, parce que tu vois, je pense à tous nos auditeurs là qui disent « Ouais, mais moi, je sais que le jour où je mets ma CMP sur mon site, alors attention, quand on met sa CMP sur son site, il faut la paramétrer hein, dans Google Tag Manager. Ça ne suffit pas hein, juste de l'avoir qui pop. Il faut bien la paramétrer, Tag Manager ou autre, hein, peu importe. Il va falloir conditionner le déclenchement des balises selon un certain nombre de règles. Mais moi, il y a un vrai enjeu derrière ça. C'est la partie remontée de données et un peu le fait qu'on perde de la donnée. Et j'ai un peu cette sensation qui est que... beaucoup de gens se disent « Oui, mais moi, je ne vais pas le mettre parce que je risque de perdre de la donnée. En fait, je vais perdre 50% de ma donnée, donc je vais perdre de l'info dans mes budgets Google, dans mes budgets Facebook. » Toi, c'est quoi un peu ta vision sur le sujet de la CMP et comment on l'optimise en fait un peu ?
Alors, le scénario que tu décris semble être un scénario où le site qui s'apprête à déployer une CMP n'a pour l'instant rien sur son site. Donc en général, ça correspond à un scénario d'avant 2018, disons.
On espère en tout cas.
Où 100% de l'audience qui navigue sur le site est codifiée, 100% de l'audience qui navigue donne lieu à des traitements de données personnelles, etc. C'est-à-dire qu'on a 100% d'infractions. Hein. L'intégralité des cookies utilisés dans cet exemple-là, l'intégralité des traitements de données personnelles dans cet exemple-là basés sur le consentement ne sont pas légitimes, ne sont pas valables légalement parlant. On décide de déployer une CMP et donc là, l'impact, c'est qu'on va évidemment passer de 100% de cette audience codifiée à X%, le X étant le delta lié aux personnes qui acceptent ou qui refusent. Entre 50 et 70% des gens vont probablement accepter. Ça veut dire qu'on va perdre probablement effectivement entre 30 et 50% des cas d'usage basés sur le cookie et le consentement. C'est important de souligner que dans cet exemple-là, la CMP est un outil de décroissance. On part d'une base 100 pour terminer à une base 70 ou 50. On va perdre quelque chose. Ce qui restera sera vraisemblablement, si c'est bien conditionné, conforme. Donc, au moins, on aura avancé dans la mise en conformité. L'impact, c'est qu'effectivement, on va perdre de la visibilité en statistique on va perdre éventuellement de la visibilité dans les surfaces de campagne de reciblage, etc., etc. C'est quelque chose qu'on a compris très vite hein, chez Sœur Data quand on a commencé effectivement à travailler sur cette CMP avec nos partenaires. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a différents types d'éditeurs de CMP. Je pense que nous sommes un éditeur qui arrive du monde du marketing. On a développé cette CMP pour mettre en conformité nos flux. Donc l'impact de la mise en conformité, on le connaît. Il a été immédiat et très rapide puisque nos flux de données ont diminué à l'époque. Et donc on a compris que ce qui était essentiel, c'était d'essayer de minimiser l'impact du choix des personnes. C'est-à-dire, lorsqu'ils acceptent, c'est magique, on peut faire fonctionner les outils qui sont à notre disposition et qui fonctionnent grâce à des cookies et donc un consentement.
Donc là, tu es à 100%. Quand c'est accepté, tu es à 100%.
Quand tu es à 100%. En revanche, quand l'utilisateur refuse l'utilisation des cookies et que les outils ne marchent plus, il faut trouver des parades, il faut trouver des alternatives pour essayer d'atténuer l'impact du refus. D'accord ? Donc, ce sera en général pas, évidemment, la possibilité de recourir à des cookies, sauf dans des modèles où une exemption peut s'impliquer. Donc, par exemple, j'utilisais un outil très connu d'Analytics qui, on le sait de manière certaine, s'appuie sur des cookies ou mis au consentement. Si je n'ai pas de consentement, je ne peux plus utiliser ces cookies. Il y a des alternatives qui ont été spécifiquement et nominativement exemptées par la CNIL de consentement. Je peux utiliser cet outil et utiliser 100% de cookies dès lors que je respecte un certain nombre de règles d'anonymisation des données et de droits d'opposition. Donc ça, c'est un exemple. Et chez Sœur Data, on a beaucoup travaillé sur comment faire fonctionner d'autres outils jusqu'à éventuellement des outils publicitaires, non plus sur la base de cookies et de consentement, mais éventuellement sur la base d'intérêts légitimes.
Ok. Parce qu'en fait, effectivement, l'impact de mettre demain une CMP, comme tu dis, tu pars d'une base 100, potentiellement, tu arrives à une base 70 ou 50. Mais ça, concrètement, tu vois, moi, je le vois pour mes clients dans Google. Quand tu investis 100 000 euros par mois sur, sur Google Ads, par exemple, ça veut dire que potentiellement, tu as 30% de... Alors, si on prend la base 30, tu as 30% de ta donnée qui ne va plus remonter. Donc, tu vas moins nourrir les algos de Google. Tu vas moins bien nourrir... Ce que tu vas avoir en plus dans ton interface, c'est que tu vas avoir du mal à piloter tes campagnes. Parce que tu vas te dire, mais moi, la rentabilité de mes campagnes, elle a drastiquement baissé. Et si tu veux, moi, le gros enjeu que je vois là-dedans, c'est qu'il y a plein de gens qui vont prendre peur à utiliser ça, à utiliser des CMP en full conformité, parce que, en fait, ils ont l'impression que leur business s'effondre. Et je dirais que ce truc de conformité, non, c'est la loi, tu vois, mais ce que la loi a proposé sur ça peut faire peur à des petits acteurs. Et du coup, une des questions que je me pose, c'est. Je pense que le premier point intéressant, c'est de dire comment, si tu es à une base 50, comment tu passes à une base 30 et c'est quoi un peu vous les bonnes pratiques que vous avez mis en place pour essayer de s'assurer qu'on ait finalement un taux de consentement qui soit le plus élevé possible. C'est quoi d'ailleurs votre taux de consentement moyen sur la balise, sur votre CMP?
Alors il y a plusieurs questions dans ta question. La dernière, c'est à peu près 69% sur le réseau. J'aimerais juste rebondir sur un terme que tu as utilisé qui est full conformité, qui mixe un peu d'anglais, un peu de français.
Ouais,
j'adore. Il n'y a pas de full ou de demi-conformité. C'est très binaire, hein, la conformité. Soit c'est conforme, soit ça n'est pas conforme. On peut faire 99% du travail et néanmoins, c'est pas conforme. Donc j'ai envie de dire, quitte à ne pas aller au bout, autant rien faire. Okay. Ça change rien. Voilà. J'insiste un peu le trait, hein, je grossis le trait. Mais
non, mais c'est important.
Il n'y a pas de circonstances atténuantes parce qu'on a à moitié fait le chemin. Hein, donc il faut faire le chemin jusqu'au bout, c'est très important. Et il faut faire avec ce qui reste. Dans les traitements que tu as mentionnés, j'en comprends deux essentiels. Le premier, nourrir des algos publicitaires pour être efficace dans mes campagnes de communication. Et le second, c'est comment est-ce que je peux mesurer ce qui arrive sur mon site à partir de ces campagnes de communication pour calibrer mes budgets, vérifier...
Prendre des décisions, quoi.
Voilà,
business,
prendre des décisions, etc. Je pense, c'est un avis personnel, qu'on peut distinguer les deux et envisager d'avoir des outils qui nourrissent les algos publicitaires spécifiquement basés sur le consentement. Donc là, effectivement, l'impact du choix de la personne est très violent, puisque je vais perdre 30 à 50% de données qui alimentent les algos de mes partenaires. En revanche, sur la mesure d'efficacité de ce qui arrive sur mon site, je pense qu'il est possible d'utiliser des outils ou des configurations d'outils qui permettent de s'approcher d'une visibilité parfaite de ce qui se passe. Alors une fois, dans ce cas-là, ça sera utilisé comme base légale. S'il y a des traitements de données personnelles, ce sera vraisemblablement l'intérêt légitime. Il faut se souvenir que la personne ne doit pas être surprise par ce qui se passe. Hein, donc on doit lui expliquer, on doit lui donner la possibilité de s'opposer, etc., etc. Mais surtout, il faut que ces traitements soient minimisés. Ils ne doivent servir qu'à de la mesure d'efficacité. Il ne doit pas y avoir de traitement ultérieur. Si possible, il faut que ça ne s'appuie pas sur des traceurs ou que ces traceurs soient exemptés de consentement, etc.
Donc potentiellement, ce que tu me dis, c'est de toute façon pour les plateformes publicitaires, vous allez perdre la donnée parce que la loi dit que vous allez perdre la donnée et qu'aujourd'hui, sur une solution comme CIRDATA, tu as 69% de consentement, donc vous allez perdre 31% en moyenne, grosso modo. Maintenant, si ça c'est la partie publicitaire, entre guillemets, la partie publicitaire, désolé, mais vous êtes foutus. Par contre, sur la partie analytics, là peut-être qu'on peut décorréler la partie analytics de la partie publicitaire pour quand même essayer de garder une vision un peu plus claire de ce qui se passe et là d'utiliser des outils qui sont exemptés. Alors, je ne sais pas si exempté CNIL, c'est vraiment le terme, en tout cas qui ont une base légale de traitement qui est beaucoup plus adaptée à ce sujet-là, te permettrait d'avoir une vision, elle peut-être pas 100%, mais 98%. Et donc là, tu peux prendre des décisions business qui sont vraiment dédiées à ton business, quoi. Grosso modo, c'est ça.
Encore une fois, c'est un chemin un peu rapide, mais effectivement, j'ai envie de dire, dans les plateformes publicitaires, imaginer communiquer autrement que sur la base d'un consentement est illusoire. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas, en tant que commerçant, toucher mes clients d'une autre façon. Hein, et je pense qu'une bonne stratégie de communication aujourd'hui est omnicanale et peut s'appuyer sur différents leviers. On a parlé de l'email publicitaire, par exemple. C'est un bon exemple. Je peux ne pas pouvoir recibler un utilisateur dans une plateforme recyclage parce qu'il ne m'a pas donné son consentement. Néanmoins, si je lui propose un sujet connect à ce qu'il a déjà commandé chez moi, je peux éventuellement chercher à lui proposer par email. Ah, donc, il n'y a pas une stratégie unique, il y en a bien plusieurs à mener de front en parallèle pour atténuer cet impact. Nous, chez CIRDATA, on va surtout être focalisé sur la question du cookie et des traitements de données. Donc, effectivement, je confirme, c'est très difficile, voire impossible aujourd'hui, de faire la communication sans consentement. En revanche, c'est possible de mesurer de l'efficacité sans consentement sous condition.
Bien sûr. Mais ok, très clair. Mais merci pour la précision quand même légale. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça shift un peu le paradigme. Tu vois. C'est-à-dire que tu peux piloter ton business sans, en tout cas en te préoccupant beaucoup moins de cette notion de consentement. Et en fait, c'est méga important.
Je pense que c'est méga important, comme tu dis.
D'un point de vue analytics, tu vois, je veux dire, à un moment donné, toutes ces lois, elles ont quand même un impact réel sur l'économie.
Alors, c'est tellement vrai ce que tu dis qu'on a déjà eu au tribunal de commerce de Paris des affaires jugées sur de la concurrence déloyale. Un site qui se met en conformité a attaqué un site, enfin plusieurs sites d'ailleurs, hein, ont attaqué plusieurs sites qui ne se sont pas mis en conformité sur cette question des cookies. Et ont gagné. C'est-à-dire que le tribunal a effectivement considéré que ne pas implémenter la conformité sur les cookies sur ton site te confère un avantage concurrentiel par rapport à tes concurrents qui, eux, font un effort de mise en conformité. Donc c'est important, hein, ça n'est plus que un risque vis-à-vis du consommateur qui pourrait se plaindre, un risque de plainte, un risque d'instruction par la CNIL. C'est aussi un risque commercial aujourd'hui que de ne pas se mettre en conformité.
Mais en fait, c'est hyper important. Enfin... Tu vois, moi, c'est le truc qui m'avait un peu frustré quand tout ça a été sorti, que m'y suis vraiment intéressé. C'est que j'ai eu un peu la sensation en tant que e-commerce, du coup, c'est pour l'activité du coup, que j'ai à côté, de me sentir un peu, d'une certaine façon, floué par la loi. Alors, j'utilise probablement pas les bons termes, mais plutôt qu'en fait, on essayait de me tirer des balles dans les pieds, alors qu'en soi, moi, j'essaie de faire mon business, tu vois, j'ai des salariés, j'essaie de faire bosser un peu le truc. Je pense que c'est le truc du chef d'entreprise de base, hein, mais. Mais en fait, où je me suis dit, mais finalement, aujourd'hui, une grosse partie de mon business est dépendant de cette donnée. Et donc, en fait, en me supprimant potentiellement 50%, parce qu'au début, on était plutôt sur du 50%, tu vois, de taux d'acceptation, en me supprimant 50% de mes sources de revenus, en fait, vous coulez une boîte, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu l'impression que j'avais. Mais bon, on va pas lancer ce débat, ça pourrait durer très longtemps. En revanche, il y avait des sujets qui étaient assez intéressants que vous avez, vous, mis en place chez Cirdata aussi pour essayer de maximiser le taux de consentement, ou en tout cas, optimiser ce consentement au plus haut niveau. Quand on préparait ce podcast, il y avait plusieurs choses qui étaient intéressantes. Il y avait un point sur la durée des consentements à 6 mois et le fait qu'on redemande régulièrement quand on est sur du refus, et que du coup, potentiellement, on garde un peu plus longtemps sur du consentement. Est-ce que tu peux peut-être me préciser un peu plus cette partie-là, que ce soit, c'est un sujet qui est important pour vous ou pas ?
Bien sûr, compte tenu de l'impact du choix des utilisateurs et compte tenu du fait que quoi qu'on fasse, on sera toujours moins efficace avec les outils existants sans un consentement, c'est important, non pas de maximiser. J'aime pas trop le terme, puisqu'on pourrait tomber un peu dans l'abus, ce qu'on appelle les dark patterns, etc., qui finirait par finalement porter les gens à considérer que l'ensemble des consentements collectés n'est plus valide, ce qui n'est pas le but. Donc plutôt que maximiser, je préfère utiliser d'autres termes comme éviter de gâcher des opportunités ou des choses comme ça. Voilà. Je pense que il n'y a pas de façon réellement efficace de maximiser un taux de consentement. Globalement, les CMP vont popper à peu près toutes de la même façon. Elles doivent converger vers un taux de consentement globalement uniforme et on ne pourra rien y faire. Et ce consentement ne fera que diminuer. En revanche, je pense qu'on peut s'intéresser à cette question du pop, effectivement, pour dire que c'est le principal ennemi du consentement. Plus on pose la question, plus l'utilisateur a l'opportunité de dire non et plus il apprend à dire non. Donc ce qu'il faut, c'est éviter de popper au maximum ou quand on pop, popper intelligemment. Et ce qui va compter, c'est la question posée. Alors le premier point c'était la durée de validité du choix. Donc effectivement, quand on propose à l'utilisateur de donner son consentement, on lui explique que son consentement va avoir une durée de vie. Le consentement va être valable 6 mois pas. Pour que ce soit conforme aux recommandations de la CNIL, on va devoir donner la possibilité à l'utilisateur de refuser de consentir. Et s'il refuse de consentir, ce refus, on va devoir le prendre en compte pendant une durée équivalente. Ou autrement dit, dans mon exemple, 6 mois. Bonjour monsieur l'utilisateur, je voudrais utiliser des cookies pour vous traquer. Si vous me dites oui, je vais pouvoir déposer des cookies et les utiliser pendant 6 mois. Si vous me dites non, je ne déposerai pas de cookies pendant 6 mois. Sauf si vous changez d'avis. Rien ne m'interdit dans ces 6 mois de reposer des questions, bien évidemment. Il ne faut pas que je le fasse trop tôt. Hein, si je lui dis « Est-ce que tu es d'accord sur la première page ?» qui me dit non et que je repop sur la seconde page, on entre déjà dans un caractère répétitif qui déplaît aux associations de consommateurs et aux autorités de contrôle. Je n'irai pas jusqu'à employer le mot harcèlement, mais certains le font et disent que si on pose des questions sur chaque page pendant le surf de la personne, effectivement, on finit par décrocher un oui, mais qui veut dire laisse-moi tranquille et pas oui pour les cookies. On considère à minima qu'il faut laisser, une fois que la personne a fait son choix, la personne naviguer tranquillement pendant toute sa session. Ou dit autrement, il est peu recommandé de reposer la question à cet utilisateur avant le lendemain. Enfin, comme ça, on est tranquille. Mais le lendemain, s'il revient, on peut lui reposer la question. Il dira oui, il dira non. Quand tu vas au supermarché, à la caisse, on te pose une question, c'est « Bonjour, est-ce que tu as ta carte de fidélité ?» Tu dis oui, tu dis non, tu la donnes, tu as tes points fidélité. Tu dis non, on te la propose. Et puis, tu reviens faire tes courses le lendemain, on la repropose. Quand le midi, tu prends ta pause déjeuner et que tu vas chercher ta salade ou ton sandwich, on te demande si tu as la carte de fidélité. Et puis le lendemain, quand il retourne, on te redemande. Si tu l'as, c'est bien, tu as ton point de fidélité. Si tu ne l'as pas, on te propose. Hein, donc, c'est normal, on vit dans un environnement où aujourd'hui, quand on a refusé quelque chose, on se le voit reproposer régulièrement. Il ne faut pas que ce soit trop fréquent, mais c'est possible.
Okay. Et justement, cette notion-là, est-ce que, là, supposons, on prend l'exemple des 6 mois, aujourd'hui, tu as quand même des navigateurs qui vont réduire la durée de vie des cookies. En tout cas le stockage de ces durées de cookies, il me semble que, tu me dis si je me trompe, mais je crois que sur Safari c'est 7 jours, je pense que Chrome va prendre la même direction probablement dans les prochaines semaines, on va en parler juste après, le podcast va durer un peu longtemps, je suis désolé, mais comment ça, du coup, ce consentement, il est crédible sur 6 mois si la durée de validité d'un cookie sur un navigateur va être de 7 jours?
Excellente question. Alors, c'est totalement et radicalement décorrélé.
Ok, d'accord.
D'accord. Le consentement pour l'accès au terminal est générique et ne va pas varier suivant le terminal. On ne va pas dire que tu es sur Safari, donc ça va être valable une semaine. C'est finalement ce qu'on appelle le multiple choix de l'utilisateur qui va l'emporter. L'utilisateur, il fait un choix dans une CMP. C'est une première chose, et ça, on est sûr de son choix à la fin. Mais il fait aussi un choix d'équipement. Il prend un terminal Apple, il prend un terminal Google, il prend un terminal de la marque de son choix. Quand il fait son choix, en général, il y a différents critères qui entrent en compte, et la conforme, enfin, le respect de la vie privée peut en être un. Je ne présume pas de la réalité de la protection de la vie privée suivant un terminal ou un autre, mais effectivement, il y a des choix qui sont faits aujourd'hui par des éditeurs de logiciels qui portent sur la question des cookies, qui portent sur la question de la... La durée de vie d'un cookie aujourd'hui Safari iPhone va varier en fonction du contexte dans lequel le cookie est créé. Un contexte dit first party, tiers, un contexte dit first party, il est déposé sur le domaine du site qui est visité, un contexte first party déposé en JavaScript, un contexte first party déposé dans ce qu'on appelle un mode server side avec une directive HTTP only, etc. La conséquence, quelle est-elle? La conséquence, elle est que la durée de vie du cookie va être entre 0 et quelques jours en fonction, sur Safari, hein, de ce contexte. Cookie tiers, c'est en général 0 jours, il n'y en a plus. Et cookie first party, ça va être une semaine dans le meilleur des cas, si c'est déposé dans une version dite server side, une journée sinon. Donc effectivement, ça a un impact. En revanche, le choix, lui, il a une durée de vie qui est celle qui a été exposée à l'utilisateur.
Donc 6 mois, par exemple.
6 mois. Rien n'interdit, par exemple, si l'utilisateur revient tous les jours, hein, c'est que le cookie de choix qui permet de stocker le choix a une durée de vie d'un jour qui est imposé par l'éditeur du navigateur, rien interdit de rafraîchir ce cookie tous les jours pour se souvenir que l'utilisateur a accepté ou refusé. Hein.
Mais du coup, ça voudrait dire que on est d'accord que le consentement, il n'est pas à la machine. Enfin, il n'est pas au terminal. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir un consentement qui est lié au numéro du terminal et qui serait le même sur Google Chrome, sur Safari ou sur Brave, par exemple.
Alors, les deux sont valides. On peut avoir un consentement spécifiquement lié au terminal, puisqu'en général, c'est d'ailleurs la question qu'on lui pose. Bonjour, monsieur l'utilisateur, est-ce que tu es d'accord que je dépose des cookies dans ce terminal pour faire ce type de traitement? Mais on peut aussi imaginer que le consentement soit dit user-centric, donc rattaché à une identité, et dès lors qu'on est capable d'identifier la personne sur différents environnements, que ce consentement soit transposé dans ces environnements.
Ok. Donc, désolé, c'est un peu technique, mais du coup, j'ai vraiment des questions sur le sujet. Donc, on pourrait imaginer, en fait, en gros, quand toi, tu déclenches ta CMP, tu vas regarder, par exemple, le numéro du terminal. Tu vas dire, ah, ce terminal, il est dans les 6 mois de conformité. Je ne vais pas lui poser la question et je déclenche tout.
Alors, tu veux dire si j'ai déjà dans ce terminal un cookie de choix qui est enregistré, qui est encore valide.
Supposons que je l'ai fait sur Google Chrome. Je suis allé sur un site sur Google Chrome. J'ai consenti avec la CMP CIRDATA à l'intégralité des cookies de tel site. Je vais sur le même site avec Safari. Est-ce que du coup, mon consentement, il est validé ou est-ce que je vais devoir redemander, la CMP va repopper et du coup, je vais devoir revalider mon consentement?
Théoriquement, on pourrait imaginer que le consentement donné sur un navigateur soit valide sur un autre navigateur. Dès lors qu'on serait capable d'identifier l'utilisateur. Donc, on pourrait imaginer par exemple que un site donné invite les utilisateurs à se connecter sur le site A, invite les utilisateurs à se connecter sur le site B, et une fois que l'utilisateur est connecté, accède à une sorte de centre de préférence qui permet de connaître les choix des utilisateurs. Le cookie de connexion, lui, vraisemblablement, sera exempté de consentement. Le cookie ou l'information du choix sera également exemptée de consentement. Donc c'est théoriquement possible. C'est théoriquement possible, mais ça implique que l'utilisateur soit logué dans les différents environnements. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une gestion de choix user-centric, donc centrée sur l'utilisateur. Le plus commun, c'est un choix géré au niveau du terminal qui est stocké dans un cookie. Il n'y a pas besoin d'un identifiant utilisateur. Hein, donc, on minimise le traitement. Il ne faut surtout pas chercher à créer un identifiant utilisateur au prétexte de gérer le choix. On a juste besoin de savoir que c'est oui ou c'est non pour différentes finalités. On n'a pas besoin de lui attribuer un identifiant. À partir de là, le choix ne sera pas accessible sur un autre navigateur. Il faudra reposer la question à un utilisateur. Et pour cause, on ne sait pas que c'est le même. Hein, donc, pour le site Internet, si un utilisateur vient avec deux navigateurs différents, c'est probablement deux utilisateurs.
D'accord, ok, très clair. Alors, en vrai, je pense que c'est important de faire la différence un peu entre les deux, parce que tu vois, c'est des questions méga précises finalement. Aujourd'hui, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'utilise un peu Safari. De temps en temps, je suis sur Arc. De temps en temps, je suis sur Chrome, en fonction des besoins. Même en fonction de si je suis en perso ou si je suis en pro, je vais utiliser un navigateur différent. Écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on échange, 53 minutes, on savait que ça allait dépasser le temps. J'ai quand même un dernier sujet qu'il faut absolument qu'on aborde ensemble, c'est la notion, on en a parlé un petit peu des cookies tiers, et surtout du consent mode, notamment du consent mode V2, qui est un sujet ultra d'actualité. Est-ce que peut-être on peut faire une petite définition de ce qu'est un cookie tiers versus un cookie qu'on appelle first party, juste peut-être qu'on donne une définition de ce sujet.
Alors, je vais te surprendre, mais il n'y a pas de différence entre les deux.
Ok.
Un cookie est un cookie. C'est le contexte d'utilisation de ce cookie qui va définir si c'est un cookie tiers ou un cookie first party. Je dépose un cookie sur le domaine surdata.com. Si j'accède à ce cookie sur le site surdata.com, c'est un cookie dit first party. Si j'accède à ce même cookie en chargeant une ressource distante sur le site tartampion.com, donc j'appelle sur le site tartampion.com une ressource sur le domaine surdata.com, je vais accéder à ce cookie préalablement déposé dans un contexte tiers.
Ok, même et cookie, mais utilisation dans des contextes différents.
C'est-à-dire que quand un cookie est créé, il est attaché à un domaine. Quand il est attaché au domaine sur lequel il est créé ou accédé, c'est dit un domaine first party. Quand il est attaché à un domaine tiers, c'est un cookie tiers. Donc ce qui va disparaître, j'imagine que c'est le sens de ta question, ou qui a déjà disparu d'ailleurs dans différents navigateurs, mais ce qui va disparaître avec le Chrome cette année, c'est l'utilisation des cookies dans un contexte tiers.
D'accord. Et donc là, si on donne bien la définition, je pense un peu pour rassurer nos auditeurs, le cookie de tracking Google Ads de votre compte Google Ads est un cookie first party. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison ?
Les deux.
Ok.
Le cookie Google Ads historique est un cookie déposé sur le domaine doubleclick.net. Google Ads, comme un certain nombre d'outils aujourd'hui sur le marché, pas forcément ceux de Google, hein, plusieurs outils ont pu évoluer, va désormais pouvoir s'appuyer sur une stratégie de maillage, donc des cookies déposés effectivement sur le domaine du client qui utilise la solution. Et après, différentes techniques vont être utilisées pour essayer de réidentifier l'utilisateur sur les différents contextes.
Ok, d'accord. Donc en fait, de base, on aurait plutôt tendance à dire que c'est un cookie tiers, mais aujourd'hui, la technologie que Google propose sur le sujet en fait un cookie first party.
Les deux cohabitent. Les deux mécaniques cohabitent. Et pour ceux qui se sont déjà intéressés, par exemple, à la question, je ne vais pas parler nécessairement de Google, mais de Facebook, puisque c'est un cas d'usage qui est connu. Facebook, je peux utiliser des balises facebook.com et donc permettre à Facebook, sur mon site, d'accéder à l'information qui concerne leur client. Donc là, on est bien sur un cookie Facebook accédé dans un contexte tiers, puisque c'est sur mon site. Et puis à côté de ça, je vais utiliser une technique dite server-side pour pousser de l'information à Facebook dans la Conversion API, donc Facebook CAPI, pour ceux qui connaissent, sans utiliser ce fameux cookie Facebook. Et au contraire, je vais essayer de lier l'identifiant Facebook, aujourd'hui attaché au domaine facebook.com, à mon domaine à moi, pour que Facebook puisse faire la résolution. Hein, donc, ce qui jusqu'à présent était centralisé sur un domaine va désormais être décentralisé sur plusieurs domaines. En identifiant 1, 2, 3, 4 Facebook, si je l'attache à mon domaine tartampion.com ou surdata.com, je me souviendrai que tu es l'utilisateur 1, 2, 3, 4 pour Facebook et je pourrai lui envoyer une information de conversion.
Ok. Ouais, donc on est vraiment dans cette notion de dire un cookie doit être attaché au domaine sur lequel il est utilisé. Malgré tout, on a quand même besoin d'utiliser des cookies tiers pour certains tracking. Et à ce moment-là, il faudra utiliser des technologies différentes, notamment le server-side. Peut-être avant qu'on se lance sur le server-side, je ne sais pas si tu voulais peut-être faire rebondir sur un des trucs que j'ai dit.
Non, non, c'est relativement clair. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le point fondamental. Hein. Il y a des cookies centralisés sur des domaines tiers qui contiennent une information, un identifiant utilisateur en général, qui vont devenir des outils décentralisés sur tous les domaines des clients, mais qui vont contenir la même information ou une information équivalente. Ce qu'il faut, c'est pouvoir individualiser les parcours pour être capable de rattacher une information de conversion par exemple, à un clic original ou à un utilisateur dans un contexte tiers.
Ok, donc effectivement, c'est quand même y a quand même un peu plus de complexité que juste dire oui, c'est first party ou oui, c'est tiers party. Il y a plus de complexité que ça. Mais derrière cet arrêt des cookies tiers, il y a un outil que Google pousse énormément et dont certainement la plupart de nos auditeurs ont entendu parler sur LinkedIn, sur YouTube, pour peu importe. C'est ce qu'ils appellent le consent mode. Alors il y a consent mode V1, consent mode V2, donc pour des versions 1, version 2. Est-ce que peut-être déjà on peut définir ensemble ce que c'est le consent mode? Ça veut dire quoi précisément?
Oui, avec plaisir. Donc déjà, pour commencer, il n'y a pas de lien entre le consent mode V1 ou V2, d'ailleurs, et la disparition du cookie tiers. Hein, ça n'est pas, le consent mode n'est pas un outil qui permet de traquer particulièrement. C'est un outil qui permet de transmettre des signaux de choix, et en particulier un signal de consentement à Google. On disait tout à l'heure, on est désormais dans une ère où il y a plusieurs consentements qui cohabitent. Le consentement pour les cookies, qui suivent une finalité publicitaire, par exemple, ou mesure d'audience dans le cadre du consent mode, et puis des traitements de données personnelles. Jusqu'à présent, le consent mode V1, on avait des signaux de type ad storage, analytics storage, etc. Le terme storage veut dire finalement accès au terminal cookie. C'était un consentement pour les cookies. On a désormais, avec le consent mode V2, des signaux nouveaux qui apparaissent, notamment ad user data, ad personalization, qui sont des signaux qui seraient plutôt rattachables au traitement de la donnée lui-même et non plus au cookie. Alors on a toujours ad storage pour le cookie, et puis maintenant on a ad personalisation pour le traitement de la donnée. C'est bien deux signaux de consentement qui cohabitent et qui peuvent être traités en bout de chaîne par Google pour savoir qu'il y a un consentement et être capable de démontrer qu'il y a eu un consentement. Je pense que c'est très important pour tout le monde aujourd'hui de comprendre que la notion de consentement, elle n'est pas binaire, j'ai un consentement, j'ai pas un consentement, elle est beaucoup plus large que ça. Il faut que le consentement soit valable et il faut que je sois capable de démontrer sa validité. Je ne peux pas juste dire je m'appuie sur le consentement et regardez, j'ai mis un outil qui me permet de le gérer. Je dois être capable de démontrer quel était le paramétrage de l'outil au moment où j'ai recueilli le consentement il y a 3 mois, par exemple. Il faut que j'historise mes fenêtres de consentement. Il faut que je sois capable de démontrer qu'il y avait une mécanique de refus possible. Il faut que je sois capable de démontrer que mes cases n'étaient pas précochées. Il faut que je sois capable de démontrer quelle finalité j'ai exposée et à quoi l'utilisateur a donné son consentement ou non, etc. etc. Et c'est très important de savoir que si on n'est pas capable aujourd'hui de démontrer la validité d'un consentement, c'est comme si on n'avait pas de consentement. Donc ce que fait Google avec son consent mode et ce que font d'autres acteurs avec d'autres standards, notamment le standard de l'industrie qui est le Transparency and Consent Framework, ce qu'on cherche à démontrer, c'est l'existence d'un consentement pour commencer et ensuite sa validité.
Okay.
C'est pour ça que le consent mode V2 n'arrive pas seul. Google ne se contente pas de dire désormais il faut que vous m'envoyiez la preuve d'un consentement. Google dit, je vais vous aider à m'envoyer une preuve de consentement valide puisque je vais auditer les CMP, Consent Management Platform, qui implémentent le Consent Mode V2. Hein, donc, il y a bien une phase d'audit de la part de Google, des CMP, donc des outils, qui vont permettre d'envoyer ces signaux-là.
Donc, en gros, si je résume un peu ce que tu viens de dire et de moi un peu la connaissance que j'ai de ce modèle du Consent Mode de Google, c'est qu'aujourd'hui, Google va auditer un certain nombre de CMP, dont Sir Data, mais dont d'autres aussi. Vous, en l'occurrence, vous êtes... après, ils vont dire vous êtes partenaire ou non de est conforme du coup avec le mode concept mode de Google. Vous allez installer la CMP sur votre site. Par défaut, cette CMP va définir pour 4 paramètres différents dans le mode V2 des effets, le denied, donc le fait qu'on ne suive pas les paramétrages. La CMP va déclencher le suivi et le mode de le consentement pour le modèle de Google selon ces 4 paramétrages. Et ça va permettre derrière à Google d'avoir des déclenchements de ces balises dans, par exemple, un outil comme Google Tag Manager qui seront contextuels au consentement de l'utilisateur. Avec la notion sur la version V2 qui vient intégrer le RGPD, donc la gestion de la donnée perso dans le consentement, alors que la version V1 était une version qui ne traitait que l'article 82, donc le fait de pouvoir accéder au terminal. Bien résumé ou
Alors, le résumé est plutôt cohérent. J'aimerais juste rebondir sur un point, ce que tu as dit, Google va pouvoir, grâce à Tag Manager, etc. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Je pense que c'est important que tout le monde se souvienne d'une chose principale quand on utilise les services d'outils tiers, c'est qu'en général, le responsable, c'est celui qui utilise l'outil. C'est-à-dire que si tu utilises Google Ads, le premier responsable, c'est toi. Alors, tu es responsable de ce qui se passe sur ton site. S'il y a des cookies qui sont déposés sans consentement, c'est ta responsabilité. Il est difficile de s'appuyer sur la responsabilité d'un tiers dans ce cas-là. Il y a une jurisprudence qui est déjà établie. Il y a au minimum une co-responsabilité, une responsabilité conjointe, et de toute façon une responsabilité de l'éditeur du site. Ça, c'est pour clarifier. Donc, ce n'est pas Google qui va conditionner des choses dans Tag Manager, c'est l'utilisateur du service Google Tag Manager.
Okay.
Hein, donc, l'éditeur du site. Google Tag Manager n'existe pas pour automatiquement conditionner des balises tierces, etc. Ça n'est pas fait pour ça. Il faut paramétrer spécifiquement des déclencheurs qui vont s'appuyer sur des signaux de choix pour déclencher ou non des balises. Le cas particulier, c'est les outils Google. Les outils Google vont effectivement aujourd'hui être capables de s'appuyer sur des signaux qui sont émis, soit par les CMP, soit en complément de l'utilisation de la CMP. Le concept mode est un exemple. Pour ajuster le comportement de leur propre balise dont ils sont éditeurs à ce signal de choix. Exemple, la balise Google Analytics déclenchée dans Google Ads, si le consent mode a été bien implémenté et qu'il n'y a pas un signal de consentement, il n'y aura pas de cookie déposé. C'est une particularité. Mais pour les outils hors Google, il faut bien sûr conditionner. C'est très important. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, l'outil se focalisait sur les outils d'ailleurs du marché se focalisaient essentiellement sur la question du consentement génériquement parlant et plus spécifiquement aux cookies. Aujourd'hui, on a un cadre réglementaire qui évolue. Il y a le RGPD, tu l'as mentionné. Il y a aussi le DMA, Digital Market Tax, en Europe, qui implique qu'effectivement, le consentement couvre beaucoup plus spécifiquement ceux qui vont être appelés à traiter de la donnée et notamment pour leur propre compte. Et notamment ce qu'on appelle les gatekeepers ou les grosses plateformes. Donc aujourd'hui, les nouveaux signaux, il y en a un qui est Add User Data dans le concept mode V2, qui est spécifiquement la traçabilité d'un consentement nominativement donné pour Google. C'est important que dans la CMP que tu utilises, tu mentionnes que tu veux utiliser des cookies, que tu mentionnes que tu veux faire des traitements de données personnelles, les deux ayant pour finalité une finalité publicitaire par exemple. Et c'est aussi important que tu mentionnes le fait que ton partenaire, c'est Google, qui va être destinataire des données et qui va être lui-même potentiellement amené à traiter des données pour ton compte comme pour le tien. Et c'est la preuve que tu as bien mentionné Google que tu vas envoyer dans ton signal nouveau Add User Data du Consent Mode V2.
Ok, ouais, donc en fait, le Consent Mode V2 vient vraiment rajouter une brique de un peu de conformité. Ou en tout cas de faciliter la conformité, notamment avec les outils Google.
Tout à fait. Au-delà d'une brique de conformité, puisque finalement, a priori, tu ne vas pas ajuster des choses dans ton Google Tag Manager sur la base de ces signaux, c'est véritablement cette question de traçabilité du consentement et auditabilité du consentement qui compte. C'est ce que je disais, il ne s'agit plus de recueillir un consentement, il s'agit d'être capable en bout de chaîne de démontrer qu'il a été recueilli et valablement.
Et tu vois, il y a un truc qui est vachement mis en avant quand on parle du consent mode V2, notamment nous dans nos domaines Google Ads, etc. c'est qu'on dit souvent, c'est un outil de modélisation de Google pour essayer d'aller récupérer la donnée manquante, donc les fameux 30 à 50% des gens qui n'ont pas accepté le consentement. En fait, grâce au consent mode de Google version 2, vous allez récupérer la donnée perdue grâce à une sorte de modélisation. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi le sujet à ce niveau-là, tu vois?
Alors, je vois tout à fait ce à quoi tu fais référence, bien sûr. Ce n'est pas le consent mode lui-même qui permet une modélisation des données. C'est le fait de savoir dans un outil qu'il y a une partie de données qui arrive avec un consentement et une partie de données qui arrive sans le consentement, qui va permettre d'isoler des jeux de données et d'avoir des traitements particuliers. Donc, le traitement de base pour l'outil avec les données consenties et à partir d'un apprentissage sur ces données, une modélisation sur les données qui arrivent sans consentement et dont on ne peut pas traiter le caractère binaire, notamment parce qu'elles arrivent en général sans identifiant utilisateur ou avec un identifiant utilisateur aléatoire. C'est le cas de Google Analytics, par exemple. Lorsque le consent mode est activé et qu'un ping sans consentement est envoyé, l'identifiant utilisateur est aléatoire et change à chaque page. D'accord ? Donc, sachant que c'est un outil user-centric, un outil d'analytics, c'est-à-dire je sais reconnaître un utilisateur sur ses différentes pages, ce qui me permet de savoir qu'il a vu 3 pages, qu'il est arrivé la semaine dernière par un lien autorisé par exemple, eh bien, si je perds cet identifiant, je ne suis plus capable de reconnaître cet utilisateur et donc de tracer l'origine. La modélisation va permettre, à partir de signaux macro, de déduire de signaux micro non exploitables en théorie, des tendances.
Ok. Donc en gros, grâce à l'implémentation du consent mode V2, tu vas donner à Google toutes les informations sur ton consentement, qui lui va lui permettre, grâce à des outils autres d'analytics à côté, de dire vos 70% ils se sont comportés comme ça, donc on estime que vos 30% ils se sont comportés comme ça.
C'est ça. Alors qu'il ne va pas permettre à Google de le dire, il va te permettre à toi en tant que client d'utiliser les outils Google pour le dire.
Ok.
La responsabilité, c'est la tienne.
Ouais.
D'accord ? Ça veut dire aussi que ça s'applique à un traitement particulier qui est la mesure. D'accord ? Tu vas pouvoir faire de la modélisation sur des statistiques d'audience, éventuellement sur la mesure d'efficacité de certains investissements publicitaires. Ce que tu ne pourras pas faire avec cette modélisation, c'est enrichir des outils publicitaires pour aller chercher des populations en reciblage, par exemple.
Hein? C'est important de le mentionner. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir retoucher des gens qui ont accepté ton consentement, mais si les gens n'ont pas consenti, tu ne peux pas remarketer. Donc derrière la fameuse pub de chaussures que tu vois sur tous les sites après avoir visité un site de chaussures, tu ne pourras pas le faire. Consent mode activé ou non ?
Tu ne pourras le faire a priori que sur la base d'un consentement. Et tu ne pourras pas modéliser quoi que ce soit qui te permettra d'afficher ta bannière avec ta chaussure sans le consentement.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur le consentement, en tout cas sur le consent mode, c'est que c'est un outil de consentement qui a été mis en place par Google pour les outils Google, qui propose cette fonctionnalité de modélisation, mais que de toute façon, ce n'est pas un outil qui va venir remplacer le consentement de l'utilisateur. Et donc, pour tout ce qui est le reciblage, le remarketing, peu importe comment on l'appelle, ce ne sera pas possible parce qu'on a mis le consent mode. Et ça, c'est un peu des raccourcis, tu vois, qu'on a dans notre cerveau de dire « Oui, mais c'est bon, j'ai le consent mode de Google, donc je suis tranquille. » Mais en fait, non.
J'insiste sur un point, je suis vraiment navré. Le consent mode en lui-même ne permet pas la modélisation. Si, par exemple, tu implémentes le consent mode dans sa version basique et que tu conditionnes tes tags, tu n'auras pas de modélisation. Il faut l'implémenter dans sa version avancée pour que ça permette des pings sans consentement qui peuvent servir à la modélisation. L'autre condition, c'est que dans ton compte Analytics, tu aies activé les signaux qui permettent de s'appuyer sur ces pings sans consentement, parce que tu pourrais avoir beau envoyer des pings sans consentement à Google, si tu n'as pas activé la modélisation, ça ne sert à rien. Ah, donc c'est vraiment, ce n'est pas le consent mode V2 qui est une techno de modélisation, c'est les signaux de choix que ça va permettre de transporter qui vont éventuellement servir à des outils qui peuvent faire de la modélisation.
C'est super bien que tu me reprennes sur ça parce que je pense que j'ai aussi vachement encore les biais et les raccourcis. Du coup, ça aide aussi nos auditeurs à voir que en fait, c'est quand même des sujets complexes parce que il y a plein de choses qui ont lieu en même temps. On peut faire, et ça va être le dernier point qu'on va aborder, parce que le podcast va durer extrêmement longtemps. Et tu as parlé d'un sujet méga important, c'est l'implémentation normale ou classique versus une implémentation avancée. Et a priori, uniquement l'implémentation avancée nous permettrait d'avoir une modélisation basée sur, en tout cas une modélisation de qualité, d'après ce que je comprends en gros.
Modélisation tout court. Je disais tout à l'heure, le principe de la modélisation, c'est de s'appuyer sur un échantillon de données consenti et certaine pour déduire à partir d'un échantillon de données incertaine ou imparfaite une tendance. Ça implique que cet échantillon de données arrive. Le consent mode basique, c'est le fait de ne déclencher une balise Google Analytics, par exemple, que si j'ai un consentement. Ce n'est pas parce que je conditionne ma balise Analytics que ça suffit. Il faut maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je conditionne ma balise Analytics et que j'envoie à Google quand même l'information qu'il y a eu un consentement, parce qu'il ne peut pas le deviner que j'ai conditionné. Hein, et donc le consent mode, avant tout, est un standard qui me permet de signifier à Google que j'ai eu un consentement.
Donc c'est parce que j'ai add user data qui est granted que et du coup Analytics va pouvoir faire de modélisation.
Et surtout Analytics Storage dans l'exemple de Analytics.
Analytics Storage dans l'exemple
d'Analytics. Donc j'ai, en fait, si j'implémente le consent mode basique, je conditionne mes balises Analytics au consentement Analytics et 100% de ce que va recevoir Google comportera la preuve, la traçabilité d'un consentement grâce à Analytics Storage. Donc 100% de ce qui arrivera chez Google Analytics sera de la donnée binaire, pourrait servir à un apprentissage, mais je n'ai pas le jeu de données imparfait qui va avec, qui me sert à déduire le reste, puisque ça a été bloqué au niveau du conditionnement. Le mode avancé est un mode différent. Je déclenche ma balise analytique tout le temps. Quand il y a le consentement, Google reçoit la preuve du consentement. Quand il n'y a pas le consentement, Google sait que c'est un ping sans consentement qui arrive. Et là, éventuellement, la modélisation peut fonctionner. C'est important hein, de se souvenir que tout ça s'appuie sur de la donnée. Une modélisation sans données ne fonctionne pas, donc il faut avoir implémenté le mode avancé. Et ce n'est pas le fait d'implémenter le mode basique qui nous permet de nous affranchir de la nécessité d'envoyer la traçabilité du consentement. Le consent mode, c'est un signal qui permet à Google de savoir qu'il y a eu un consentement.
Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est le système basique vous permettra de vous mettre en conformité dans le conditionnement de vos balises avec la loi. Maintenant, si vous voulez vraiment utiliser des outils de modélisation, il va falloir mettre en place plus que juste la partie légale. Il faudra mettre en place un suivi vraiment avancé avec des déclenchements de ping à la fois lors de consentement, mais aussi lors de non-consentement, en leur disant qu'il n'y a eu pas de consentement, pour pouvoir derrière faire une modélisation grâce à cette donnée en fonction de ce qui s'est passé. C'est bien résumé ou il y a encore des choses?
Je vais même te faire mal à la tête. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la modélisation peut tout à fait impliquer un traitement de données personnelles. En l'occurrence, elle serait arrivée sans consentement, puisque c'est le principe. Donc la question est de savoir si ce traitement de données est bien un traitement de données personnelles ou non. Si c'est un traitement de données personnelles, le RGPD s'applique. Pour que ce traitement soit conforme, il faut qu'il y ait une base légale. Vraisemblablement, c'est l'intérêt légitime. S'il y a un intérêt légitime, il faut l'expliquer. Il faut le loger, par exemple, dans une CMP ou dans une page de vie privée. Il faut donner la possibilité à l'utilisateur de s'opposer. Hein, donc, le fait de déployer le consent mode V2 n'est pas nécessairement suffisant d'un point de vue conformité réglementaire. Ça ne dispense pas l'utilisateur des outils de Google ou d'autres fournisseurs hein, de référencer les traitements qui sont faits, de s'intéresser à la question de savoir si c'est un traitement de données personnelles ou non. Et si c'est un traitement de données personnelles, comment est-ce que je fais pour le mettre valablement en œuvre? Quelle est ma base légale et comment est-ce que je donne l'information à l'utilisateur et je lui donne la possibilité d'exercer ses droits?
Ok, donc tu n'es pas en légalité parce que tu as le consent mode. C'est important de le
doter. C'est important de vérifier quand on utilise des outils si c'est suffisant ou insuffisant, effectivement, de s'appuyer sur un consentement et si c'est insuffisant, de faire le reste du travail qui nous incombe puisque nous sommes responsables en premier plan.
Mais tu vois, derrière tout ça, du coup, il y a une question qui se pose. Et je pense que du coup, il y a un raccourci que beaucoup de gens font. C'est que, en fait, tu te rends compte que déjà, la modélisation, elle n'est pas de base. Il va falloir vraiment la mettre en place. avec vraiment un paramétrage dédié. Mais surtout, il y a beaucoup de gens qui font le raccourci, mais je vois avec certains de mes clients, et je pense que je faisais ce raccourci aussi au début, qui était de dire, parce qu'on a implémenté le concept mode V2, alors on aura de la modélisation. Donc si j'ai de la modélisation, ça veut dire que dans les 30% de gens qui refusent le consentement, je vais quand même avoir la donnée qui remonte dans Google Ads. Donc finalement, ce que je vais voir dans Google Ads, c'est encore réel. Donc en fait, je vais continuer à avoir 100% en réalité. Ça, on est d'accord que c'est un raccourci total et que le consent mode ne nous fera jamais rattraper les 30% perdus. Enfin, en tout cas, la modélisation générée par tout l'implémentation dont on vient de parler ne nous permettra pas de récupérer les 30% perdus.
Ça permettra de récupérer une partie de visibilité sur l'efficacité des investissements.
Est-ce que tu as une idée aujourd'hui?
Mais pas sur la surface des investissements.
Est-ce qu'on est capable de sur les 30% là, on peut récupérer combien d'après, est-ce que vous avez vous des data de votre côté, sont capables de dire bah on sait que globalement sur les 30% allez, on va réussir à gratter peut-être 30% de plus, donc au final t'es à 75% quoi.
Alors, c'est difficile à dire. Je ne pense pas qu'il y ait de règle générale. Je pense qu'effectivement, avancer le taux de 75%, c'est pas idiot. Donc, je vais pouvoir effectivement retrouver 75% de mes 30% sous une forme modélisée. Hein, donc, une information agrégée en général. C'est difficile à dire aussi parce que souvent, le déploiement du concept mode V2 s'accompagne du déploiement d'autres outils aujourd'hui. Lié à d'autres questions, tu l'as mentionné, la disparition du cookie tiers, etc. C'est vrai qu'il y a une accélération sur le déploiement d'outils server-side. L'énorme intérêt d'un outil server-side, c'est aujourd'hui de s'appuyer sur une délégation de domaine, donc un sous-domaine du site utilisé, plutôt que sur des domaines tiers, ce qui permet éventuellement de retrouver un peu de trafic. On parle souvent de desad blocking. Donc l'un dans l'autre, les différents outils vont se cumuler pour permettre de retrouver un petit peu de couleur dans la lisibilité des statistiques. Mais jamais ça permettra d'augmenter la surface de ciblage ou de reciblage. Hein, c'est vraiment important de se souvenir qu'il y a vraiment une finalité de ciblage qui sert à afficher des publicités, des liens entre eux, etc. Et une finalité de mesure d'efficacité. On pourra toujours améliorer cette mesure d'efficacité. On pourra difficilement améliorer, voire pas du tout, la surface de communication sans un contrat.
Ok. Donc, ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir bien saisi, tu vois, tout cet aspect-là que de l'implémentation de modélisation ne nous permettra pas de rattraper tout. Ça nous permettra éventuellement de passer de nos 70% de consentement, comme on l'a dit tout à l'heure, à peut-être une vision de 90% de la réalité avec un 20% de modélisé, donc ça vaut ce que ça vaut, et un 10% c'est perdu. Par contre, du coup, tu as parlé du server-side. Est-ce qu'on peut faire vite fait un point sur le server-side qui est en fait finalement un peu sorte de, pas de solution, mais de réponse un peu plus qualitative à uniquement la gestion cookie. Et là, peut-être que tu vas me dire, oui, mais il y a des cookies aussi dans le server-side, ce qui est le cas, mais voilà.
J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont extrêmement dangereux, ces cookies. Le server-side présente énormément d'intérêt pour différentes parties, y compris d'ailleurs pour l'utilisateur. Puisqu'on va faire passer des logiques de calcul de son navigateur vers des serveurs. Donc pour lui, le surf sera plus fluide, il n'y aura plus 32 balises JavaScript qui s'exécuteront, mais plus qu'une seule qui permettra de faire en sorte que ces 32 calculs soient faits sur des serveurs et plus sur sa machine. Donc ça peut représenter des intérêts pour lui. Néanmoins, il y a des inconvénients inhérents. Notamment, le principal avantage pour le site utilisateur de GTM Server Side, c'est de pouvoir charger son Tag Manager, donc Google Tag Manager, depuis son sous-domaine de son propre site, plutôt que depuis le domaine googletagmanager.com. Pourquoi un avantage? Parce que certains adblockers vont spécifiquement détecter les patterns liés au Tag Manager, ne serait-ce que le nom de domaine par exemple, pour le bloquer. En utilisant mon sous-domaine pour le charger, je peux faire en sorte que ça ne soit plus bloqué par l'adblocker. Je précise qu'on n'est pas forcément des grands amis des adblockers chez Stardata, ce n'est pas un secret. Non pas parce qu'ils représentent en théorie, mais parce qu'ils sont en réalité des péages. Les adblockers aujourd'hui désadbloquent volontiers des acteurs de la tech dès lors que le péage est payé. Et ça, moralement, ça nous pose un souci. Donc on n'a aucun souci à ce que des gens puissent vouloir désadbloquer leur trafic. Ça n'empêche pas que derrière, la question du consentement est primordiale. Et il ne faut surtout pas utiliser ce type d'outil pour contourner la réglementation et essayer par exemple d'utiliser des équivalents de cookies cachés. Il ne faut surtout pas faire ça. Et j'aimerais juste attirer l'attention de tout le monde sur un point, c'est que quand on appelle Google Tag Manager sur le domaine googletagmanager.com, il n'y a pas de cookies qui sont transportés. Il n'y a jamais de cookies déposés sur ce nom de domaine. D'accord ? Google n'en dépose pas. Donc quand je l'appelle, je suis certain de ne pas être en infraction sur la réglementation sur les cookies. Quand j'appelle ce même script Tag Manager depuis mon sous-domaine, potentiellement l'intégralité des cookies qui sont déposés sur mon domaine sont transportés à cette occasion. Ça veut dire que si j'ai un cookie qui a été déposé en infraction, il sera en plus lu et accédé à l'occasion du chargement de mon tag manager. Et ça, c'est potentiellement très dangereux. D'accord ? Parce que ça caractériserait une infraction à chaque chargement. Donc, il y a beaucoup d'avantages à utiliser ce type de technologie, dite server-side. D'ailleurs, nous, sur Data, proposons de l'hébergement d'instances GTM serveurs et proposons également des surcouches, d'ailleurs, sur les instances GTM serveurs qui peuvent être hébergées chez nous ou chez d'autres prestataires pour justement venir bloquer des cookies quand ils ne sont pas conformes, par exemple, etc. etc. Mais c'est vraiment important de se soucier quand on déploie cet outil de sa conformité au sens large. Il ne faut surtout pas déployer ce type d'outil si on n'a pas conditionné ses balises ou si on n'a pas implémenté une CMP et la gestion du consentement qui va avec.
Oui, effectivement, ce n'est pas une solution miracle. D'installer du server-side pour toute la partie consentement dont on a parlé et tout ça. Par contre, il y a quand même dans le sens où il faut y faire attention à pas mal de points de paramétrage, mais il y a quand même un intérêt particulier à implémenter du server-side. Donc, peut-être juste pour ceux qui nous suivent, et tu me reprends si je me trompe sur le fonctionnement, mais l'idée, c'est que plutôt que de passer des données depuis votre navigateur, vous allez passer de la donnée à vos différents outils, Google Ads, Facebook, peu importe les outils que vous utilisez, via un serveur que vous contrôlez, et donc du coup, vous allez avoir plus de contrôle sur l'information que vous allez passer et être moins dépendant de tous les systèmes de blocking qu'il peut y avoir dans les navigateurs, des règles de ces navigateurs-là, etc., etc. Et ça va en plus de ça améliorer la fluidité de votre site en termes de rapidité de performance. C'est vraiment très très simpliste ce que je viens de dire.
Non, mais je pense que c'est très important de le souligner. D'ailleurs, tu l'as mentionné. On a parlé des adblockers d'un côté, donc l'utilisateur n'est pas forcément conscient de ce qu'il fait exactement et des conditions de adblocking. Il y a des envois de données qui sont aujourd'hui bloqués par des navigateurs comme Safari, alors même que l'utilisateur n'en a absolument pas conscience. Donc il ne l'a ni demandé, ni n'en est conscient. Et je pense que tout ça, mis bout à bout, fait qu'en plus, un site moyen a 30% de perte de données sans même parler du consentement. Donc ce qui est intéressant, si tu veux, avec le server-side, c'est que tous ces blocages dont l'utilisateur n'est même pas conscient vont être débloqués. Donc mécaniquement, la surface de population à laquelle on va poser la question va passer de 100 à 130. Et dans notre base 100, on va passer à 130. Si là, 70% disent oui, on va passer de 130 à 95 ou peu importe, mais on va donc s'approcher des 100 originels qu'on avait sans les adblocker et sans CMP.
Ok, ouais, c'est assez intéressant pour cette partie-là aussi, du coup, parce que du coup, tu t'ouvres en fait beaucoup plus d'opportunités, même d'un point de vue consentement, etc. Ouais, je crois qu'on pourrait faire un autre épisode sur le server-side. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire prochainement. Je pense qu'on va couper le podcast ici. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet échange. C'était, je pense, hyper complet, c'était hyper long. On avait prévu de faire 50 minutes, on est à quasiment une heure et demie. Mais je pense que c'est hyper important de faire un point quand même sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup, Benoît, pour ton temps. Est-ce que peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver ? Peut-être si tu veux, même par rapport à CIRDATA, si on veut installer la CMP. Moi, perso, c'est ce que j'ai installé sur mon site. Ça marche bien, donc rien à dire de spécial. Mais comment on peut te contacter si on a des questions à te poser ou si on veut s'informer un peu sur plus en profondeur ou plus techniquement sur les sujets dont on a abordé dans ce podcast ?
Écoute, merci à toi. J'ai aussi mis sur le site serdata.com la CMP Serdata.
On est deux. Heureusement.
On est deux. On peut nous retrouver sur le site serdata.com, sur mon email. Vous pouvez me contacter. Bob, B-O-B, @serdata.fr.
Trop cool. Eh ben, écoute, merci encore pour cet échange. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Pensez à nous laisser aussi, si vous avez des questions par rapport à tout ça, des commentaires, un like aussi sous tous les épisodes. Alors, ce sera principalement sur YouTube, pour ceux qui le regardent sur YouTube. Mais voilà. Merci encore. Et
merci
bonne journée.
Et bon courage à tout le monde pour les déploiements.
Ouais, ça va être rigolo, je pense.